Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. L'Algérie s'apprête à célébrer mardi en grande pompe le 60e anniversaire de son indépendance, une indépendance arrachée après 132 ans de colonisation française. Près de deux mois après la mort de la journaliste américano-palestinienne Shirin Abu Akleh, l'autorité palestinienne a remis aux États-Unis la balle qui lui a été fatale. Elle doit maintenant être expertisée. De nombreuses attaques meurtrières au Darfour, les victimes sont des civils qui résidaient dans des villes situées dans la partie occidentale de cette région du Soudan. Notre invitée sera Laetitia Bader, directrice de la Corne de l'Afrique à Human Rights Watch. Il était une légende du théâtre, le metteur en scène britannique Peter Brook est mort hier. L'ancienne ministre socialiste de l'éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a été élue hier à la présidence de France Terre d'Asile. La Coupe féminine d'Afrique des Nations 2022, l'équipe du Maroc a remporté hier soir le match inaugural à Rabat. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h est Zineb Mekwar pour le roman « La poule et son cumin » chez Jean-Claude Lattès, extrait dans votre édition. L'Algérie célébrera mardi le 60e anniversaire de son indépendance après 132 ans de colonisation française, une indépendance arrachée au terme de 7 ans et demi de guerre. Les autorités prévoient notamment une imposante parade militaire dans la capitale. Ce sera la première depuis 33 ans. Un spectacle qui retracera l'histoire millénaire de l'Algérie est aussi prévu demain soir à l'Opéra d'Alger. La Banque d'Algérie va immortaliser cet anniversaire avec l'émission d'une nouvelle pièce de monnaie de 200 dinars. Sa mort remonte au 11 mai dernier. L'autorité palestinienne a remis aux Américains pour expertise la balle qui a tué la journaliste américano-palestinienne Shirin Abu Akleh. Une annonce du procureur en chef palestinien. Shirin Abu Akleh a été tuée alors qu'elle couvrait pour Al Jazeera une opération militaire israélienne à Jénine en Cisjordanie occupée. Selon l'enquête palestinienne, la journaliste a été tuée par une balle tirée par un soldat israélien. Des enquêtes journalistiques ont aussi pointé en direction de l'armée israélienne. Idem pour le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. De récentes attaques meurtrières au Darfour, les victimes sont des civils qui résidaient dans des villes situées dans la partie occidentale de cette région du Soudan. L'organisation non gouvernementale de défense des droits humains, Human Rights Watch, indique que des assaillants armés ont tué des centaines de personnes et causé le déplacement de milliers d'autres. Entretien avec Laetitia Bader, directrice de la Corne de l'Afrique à Human Rights Watch.
Nous parlons en particulier de nouvelles attaques qui ont laissé des centaines de personnes mortes dans l'ouest du Darfour. Alors, il y a eu deux attaques en particulier. Donc, à chaque fois, il y a des dynamiques très localisées aussi qui jouent, mais on parle vraiment de tendances aussi qui ont lieu à travers l'ouest du Darfour. Alors, c'est vraiment la région du Darfour qui a été le plus affectée par une augmentation d'attaques sur les civils depuis deux ans, en fait. Je pense qu'il est important de soulever qu'il y a deux ans, la force de maintien de la paix, qui était conjointe de l'Union africaine et aussi des Nations unies, a été retirée du Darfour. Et depuis, on voit de plus en plus d'attaques sur les civils. Donc, souvent, ce qu'on voit en termes de tendance, et on l'a vu une fois de plus dans les deux attaques qui ont eu lieu depuis avril, c'est qu'un incident localisé, criminel, des individus d'une communauté, alors en général de groupes ethniques africains, a été tué. Donc un incident individuel provoque des rétaliations contre la communauté en plus général. Donc ici, on a parlé de deux attaques. L'une qui a eu lieu à Koulbous, où ça a été une communauté en particulier qui a été affectée. Plus de 100 personnes qui ont été tuées, dont des enfants, un déplacement significatif de la population. Je pense qu'il est important de souligner que beaucoup des communautés ciblées, notamment dans ces deux incidents, sont déjà des déplacés internes. Beaucoup d'entre eux sont des gens qui avaient déjà depuis 20 ans été déplacés par des attaques et ce qu'on avait documenté il y a plus de 20 ans, une campagne aussi de nettoyage ethnique dans cette région. Donc une fois de plus, vraiment des communautés qui sont victimes de ces attaques ciblées contre les civils. On parle quand même d'une dynamique qui a changé. Dans le fait qu'il y a 2 ans, quand les forces de maintien de la paix ont été retirées, les nations, le Conseil de sécurité avait décidé qu'il n'y avait plus besoin d'une force de maintien de la paix. Il y avait un nouveau gouvernement de transition qui incluait des civils qui avaient dit qu'ils protégeraient les civils dans le Darfour. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que ça a créé une absence de forces de sécurité, de protection des civils depuis 2 ans. Et dans ce contexte, on a aussi vu certaines communautés qui traditionnellement n'étaient pas armées, notamment certaines communautés africaines qui ont commencé à s'armer aussi. Donc on voit aussi une prolifération d'armement dans une région où il y avait déjà beaucoup d'armes. Donc tout ceci crée vraiment une situation de manque complet de protection des civils de toutes les communautés, en fait.
Si justement vous parlez d'affrontements communautaires, quelle est la cause de ces affrontements?
Les causes de base, et c'est un des problèmes actuels au Darfour, qui n'ont toujours pas été abordées d'une façon significative, que ce soit par le gouvernement soudanais ou la communauté internationale. C'est des questions aussi d'accès aux ressources, d'accès à la terre, d'accès aux points d'eau, mais c'est aussi des questions de justice, de rendre compte pour les crimes des passés. Donc les causes, il y en a qui sont localisées, mais il y a aussi des tendances par rapport aux problèmes que personne n'a su ou a voulu, parce que je pense qu'on parle aussi vraiment d'un manque de politique, de volonté politique, d'aborder les causes de ces violences qui continuent.
Et qui ont fait de très nombreuses victimes, vous le dites, plusieurs centaines de personnes tuées depuis avril dernier, des milliers de personnes déplacées, ces personnes qui ne bénéficient d'aucune protection.
Justement, même dans leur déplacement, alors ce qu'on a vu à l'ouest du Darfour, c'est que depuis 2 ans, il y a eu maintes attaques sur des camps informels de déplacés. Donc, ce qui s'est passé dans la ville de El Janina, qui est la capitale du Darfour de l'Ouest, par exemple, c'est que les gens ont dû prendre refuge dans des écoles, dans des bâtiments publics. Et dans ces endroits de refuge, en fait, l'assistance humanitaire est aussi insuffisante. Donc, on parle non seulement de crise humanitaire, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, vient de sortir un rapport qui a démontré que dans l'ouest du Darfour, il y a plus de 60% de la population qui actuellement a besoin d'assistance alimentaire. Donc c'est vraiment une région où on voit très clairement comment la violence, le manque de protection affecte aussi directement la situation humanitaire. Je pense qu'il est important de soulever, c'est aussi une région actuellement où les gens devraient être en train d'entreprendre les activités agricoles. Et dans de nombreuses communautés, notamment la communauté Guimir qui a été attaquée plus récemment dans une des attaques qu'on a documentées, les gens ont trop peur en fait de partir, de bouger et d'aller sur leurs terres, notamment à cause de la manque de protection. Donc on voit vraiment l'impact multiple de cette violence sur l'accès aux besoins de ces communautés. Donc c'est non seulement une question de protection, c'est aussi une question de pouvoir manger et de survivre.
Pouvez-vous nous rappeler la situation politique aujourd'hui au Darfour?
Il y a un lien entre ce qui se passe à Khartoum, le coup d'État qui a eu lieu à Khartoum, différents types de pourparlers qui ont eu à Khartoum, et aussi ce qui se passe au Darfour d'une certaine façon. Comme nous le savons, Darfour était vraiment la partie du Soudan où pendant des années, il y avait beaucoup d'attention internationale. Mais depuis quelques années, on a vu de moins en moins d'attention, et ceci, on l'a aussi vu au niveau politique soudanais, où même les représentants, par exemple, des ex-groupes rebelles qui viennent du Darfour, en fait, sont arrivés à Khartoum et ont de beaucoup de façons délaissé leur communauté aussi au Darfour. Et c'est une fois de plus, ça contribue aussi au sentiment de manque de protection des communautés qui sont vraiment et qui sont concrètement et ont l'impression d'être délaissées par le centre.
Vous le rappelez, hein, le Soudan où un coup d'État a été mené en octobre dernier par le général Al-Burhan.
Absolument, et beaucoup de l'attention actuellement, que ce soit des Nations Unies, que ce soit des pays comme la France, est sur ce qui se passe à Khartoum, essayer de retourner à un type de transition vers un gouvernement civil. Et donc dans ce processus, l'attention n'est plus du tout au Darfour. Et c'est aussi pourquoi on essaye de soulever dans notre communiqué le besoin absolu que l'ONU assure une surveillance, un monitoring, un travail de recherche, une collecte d'informations. Et il y a beaucoup de bras de l'ONU qui peuvent bien sûr collecter cette information pour s'assurer non seulement qu'il n'y a plus d'excuses d'ignorer le Darfour, qu'il y ait des informations sur ce qui s'y passe, parce que quand la force de maintien de la paix a été enlevée du Darfour, on a aussi vu une nouvelle établissement d'un nouveau système de l'ONU, une agence plus politique qui, pendant longtemps, a aussi négligé le Darfour, n'avait pas beaucoup de ressources humaines sur le terrain au Darfour. Et donc, c'est tout le système onusien et international qui doit prêter plus attention à ce qui se passe au Darfour pour qu'il n'y ait aucune excuse de délaisser la situation des civils qui ne fait qu'empirer.
Laetitia Bader, directrice de la Corne de l'Afrique à Human Rights Watch. Une attaque de requins a fait 2 morts en Égypte. 2 femmes ont été tuées dans la mer Rouge près d'Hurghada, où plusieurs plages sont fermées depuis ce drame survenu vendredi dernier. Les 2 femmes ont été attaquées alors qu'elles étaient en train de nager. En France, l'ancienne ministre socialiste de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a été élue à la présidence de France Terre d'Asile, l'association qui œuvre pour l'accueil et l'accompagnement des exilés. Il s'agit d'une mission non rémunérée. L'ex-ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande succède au conseiller d'État Thierry Leroy. Najat Vallaud-Belkacem conserve par ailleurs la direction générale de OAN, une ONG qui lutte notamment contre l'extrême pauvreté. Il était une légende du théâtre. Le metteur en scène britannique Peter Brook est mort hier. Il était âgé de 97 ans. Peter Brook avait notamment dirigé une série de pièces de Shakespeare. Il s'était installé à Paris en 1974. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h est Zineb Mekwar pour le roman La poule et son cumin chez Jean-Claude Lattès dans la collection La Grenade. Ce premier roman a pour héroïne une Marocaine qui part faire ses études en France. Une histoire que la romancière a située en 2011, une année charnière en France comme dans les pays du Maghreb. Zineb Mekwar.
C'est une date qui n'a pas été choisie effectivement à la légère pour moi. Je situe le roman à ce moment-là parce que en fait c'est une date charnière à la fois en France et au Maroc. En France, comme vous l'avez très bien dit, il y a plein de choses qui se passent au niveau politique. Il y a une montée de l'extrême droite qui n'est pas sans rappeler malheureusement l'actualité. Mais au-delà de ça, il y a une circulaire qui est passée à ce moment-là. La circulaire Guéant qui a été abrogée quelques mois plus tard parce que on s'est rendu compte que ça allait pas du tout. Mais c'est une circulaire qui a fait beaucoup de mal, notamment aux étudiants étrangers, qui a un peu viré du jour au lendemain des étudiants étrangers parce qu'elle rendait plus difficile le fait de changer son statut d'étudiant à travailleur. Et donc, beaucoup d'étudiants se sont retrouvés mis à la porte, notamment beaucoup de Marocains, parce que les étudiants marocains sont le premier contingent d'étudiants étrangers en France. Et à la fois, du coup, 2011 en France pour ça, et au Maroc, parce que c'était effectivement tout ce qui s'est passé dans le monde arabe, la montée des islamistes au pouvoir au Maroc, d'ailleurs qui viennent de perdre aux dernières élections près de 90% de leurs sièges. Donc c'était un moment charnière sur les deux rives et ça m'a intéressé de montrer en fait comment cette jeunesse plurielle marocaine qui se libère et qui vit passionnément en fait, je dédie le livre à cette jeunesse qui se libère et qui vit passionnément, comment elle se retrouve en fait bridée par des carcans à la fois au Maroc, par des lois qui sont désuètes, une tradition de la chouma, de la honte et une bienséance sociale qui fait que voilà chacun a sa place, et comment en fait elle se retrouve aussi bridée par des carcans en France, parce que être étudiant étranger, notamment maghrébin en France, avec la crispation autour de la figure de l'islam, autour de la figure des arabes, autour de la figure de la femme musulmane aussi, et ben comment on fait pour se libérer de tout ça?
Alors il y a un personnage important pour Kenza, c'est son grand-père. Il a exercé des responsabilités officielles, il a été gouverneur, il a servi tous les rois passés et actuels.
Exactement, alors c'est un personnage qui moi m'émeut beaucoup, et beaucoup de retours de lecture me disent « Ah mais le personnage du grand-père, il y a vraiment quelque chose ». C'est parce qu'en fait, ce personnage-là permet de mettre la grande histoire dans la petite. ou la petite histoire dans la grande, effectivement, grâce à lui ou à travers son histoire, je peux montrer les rapports entre la France et le Maroc. Le personnage du grand-père, en fait, symbolise ce Maroc qui a voulu l'indépendance, qui s'est battu pour l'indépendance, qui ne veut pas, qui a du mal à rejeter, mais qui rejette quand même, voilà, le rapport à la France. Et en parallèle, il y a le personnage de la grand-mère, qui est aussi un personnage important dans le roman, qui en fait symbolise ce Maroc moderne, ce Maroc apaisé avec son histoire. Et justement, un moment que j'aime beaucoup dans le bouquin, c'est le personnage du grand-père qui dit à la grand-mère, il faut pas que Kenza oublie que, même si c'est une fille de la décolonisation, c'est une petite fille de la colonisation. Et sa grand-mère dit, c'est exactement ce que je souhaite qu'elle oublie. Donc voilà, c'est ces deux visions du Maroc et de son histoire qui se font face.
Deux visions de l'histoire du Maroc, c'est un livre sur les contrastes, Zineb Mekwar, tradition-modernité, la fascination et le rejet de l'Occident, et évidemment, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, la pauvreté et la richesse.
Exactement, en fait, il y a beaucoup de thèmes qui traversent ce bouquin. On m'a posé la question, là je reviens d'une tournée au Maroc qui a été formidable, et on m'a dit, mais est-ce que tu voulais pas choisir un thème? Il y en a plein dans ce livre. Et j'ai dit, en fait, non, je ne peux pas choisir un thème parce que je voulais montrer le Maroc actuel. Et le Maroc, c'est un carrefour des civilisations, c'est un carrefour de langues, c'est un carrefour d'identité. Et donc, en suivant tout simplement deux jeunes filles et à travers elles toute la jeunesse marocaine, eh ben, j'ai suivi tous ces thèmes-là, parce qu'il y a la thématique de la langue aussi au Maroc. Certains parlent français, certains parlent arabe. Et encore, j'ai même pas parlé encore dans ce livre de l'identité berbère, mais peut-être que ce sera dans mon prochain. Donc voilà, il y a vraiment cette identité plurielle qui traduit une richesse des thématiques.
Zineb Mekwar, invitée de la bibliothèque de Radio Orient à 19h pour son roman La poule et son cumin chez Jean-Claude Lattès dans la collection La Grenade, émission présentée par Loïc Barrière. Les Jeux méditerranéens d'Oran, le Maroc n'ira pas en finale pour l'épreuve de football. Les Lions de l'Atlas U18 ont été battus hier soir par l'Italie de 2-1. L'Italie qui affrontera la France en finale. Coup d'envoi ce lundi à 20h45 au complexe olympique d'Oran. Les Marocains joueront pour la médaille de bronze demain face à la Turquie. La Coupe féminine d'Afrique des Nations 2022, l'équipe du Maroc a remporté hier soir le match inaugural à Rabat. Une victoire, 1-0 face au Burkina Faso. Les Lions de l'Atlas ont réussi à marquer le but victorieux en première mi-temps sur coup franc. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.